Nancy Houston, Griselda Disreal, deux femmes totales.
Elles ne se sont pas rencontrées physiquement, mais leur proximité est frappante. Écrivaine franco-canadienne, depuis 50 ans, Nancy Houston construit une œuvre où la féminité tient une place centrale. Sa fascination pour Griselda Disreal est née tardivement, mais elle est totale, au point d'écrire une longue lettre à la disparue. Réal fut le chantre de la prostitution dans les années 70 avec le mouvement des travailleuses du sexe. Elle a osé dire que les putes donnaient des instants de bonheur à des hommes, sous-entendant la gestion des frustrations. Prostituée soignante, en quelque sorte. En disant l'utilité de leur service, elle a choqué et revendiqué un choix libre. Des passes par dizaines de milliers et la violence souvent, Griselda Disreal fut une combattante. Et là où Nancy Houston est déterminante, c'est lorsqu'elle parle de la créatrice. Enfermée dans un sanatorium ou en prison, Griselda Disreal s'évade par l'écriture, transforme le fenestron de sa cellule en cinéma et crée ce qu'elle ne fait jamais à l'extérieur où ses occupations sont tout autres. Et ses poèmes et écrits sont troublants de force et d'expression. D'où la quête de Nancy vers Griselda Disreal et son adresse tout en sororité dans « Reine du réel, lettre à Griselda Disreal » paru chez Nil. La découverte d'une poétesse, vraie rebelle à la vie si dissolue mais passionnante et qui ne cesse de nous questionner. L'exploitation tarifée de la femme par l'homme subsiste malgré des avancées et Nancy Houston exprime un souhait que le dialogue s'engage pour de bon entre les féministes et les prostituées. Une belle soirée a eu lieu au Bleuet de Bannon où l'écrivaine, accueillie par Marc Gaucheran et accompagnée d'un violoncelle et de deux lectrices, a dit son attirance et son respect pour Griselda Disreal. Nancy Houston répond à mes questions.
Nancy Houston, qu'est-ce que vous admirez? Qu'est-ce qui vous a fasciné chez Griselda Disreal?
En fait, je n'ai pas vraiment écrit ce livre en raison d'une fascination, mais en raison d'une ambivalence. Pour moi, c'est presque toujours les thèmes qui suscitent en moi de l'ambivalence qui m'inspirent le plus. Et c'est pour ça que la maternité, par exemple, c'est un très bon thème. Griselda Disreal, je l'ai à la fois beaucoup admirée dans son rôle de passionnariat du mouvement des prostituées, où je l'ai découverte en 1975, lorsqu'elle haranguait les foules à la Mutualité à Paris. Et ensuite, lorsque j'ai lu certains de ses livres et un peu de sa correspondance, lorsque j'ai regardé des interviews qu'elle avait données, j'ai été beaucoup plus circonspecte. J'étais très troublée, plus que troublée, repoussée par son goût des hommes violents, ce qui semble tel en tout cas, et qui transparaissait dans « Le noir est une couleur », son roman autobiographique, et aussi dans de nombreuses lettres qu'elle avait envoyées à Jean-Luc Hennig notamment. Donc en fait, l'étincelle qui a mis le feu à mon désir d'écrire sur elle, c'est un spectacle de Coralisa Onero, qui était un montage de textes de Griselda Disreal et que j'ai vu à Avignon il y a quelques années, et je me suis dit oui, il y a quelque chose de très important en fait dans la force de cette femme, dans sa capacité de surmonter ce qu'elle a vécu, et j'avais envie d'approfondir en fait mes connaissances et aussi de reconnaître les ressemblances entre nous, d'où le fait que lorsqu'on m'a proposé d'écrire une lettre à quelqu'un, j'ai immédiatement pensé à Griselda Disreal.
Vous l'avez donc apostrophée?
Je ne l'ai pas apostrophée, enfin apostrophée au sens où je m'adresse à elle. C'est une des formes que j'aime le plus, je chéris le plus dans l'écriture. Je l'ai fait avec Romain Gary, j'ai également tutoyé Romain Gary dans Tombeau de Romain Gary, alors que je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais non plus rencontré Griselda Disreal. Mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs mois de fréquentation et de réflexion, on a souvent l'impression de connaître quelqu'un et on a envie d'employer cette forme intime. Et donc, j'ai été extrêmement heureuse de voir que, par exemple, cette chose qui me dérangeait, son goût pour les hommes violents, était très circonscrite dans le temps. Et que c'était le pire moment de cela, c'était juste après la mort de sa mère et un moment où son manuscrit de roman n'arrivait pas à trouver d'éditeur. C'est comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds et elle s'est mise dans une situation d'une violence extrême. Elle a fait aussi des tentatives de suicide, donc je pouvais voir la logique de cela. Quand elle a commencé à militer avec le mouvement des prostituées en 1974, ce masochisme, entre guillemets, a totalement disparu. Elle ne s'est plus jamais mise dans ces situations-là. Elle a compris les raisons, peut-être, de cette place qu'elle pouvait occuper et elle a refusé de l'occuper à partir de là. J'ai aussi écrit cette lettre qui s'appelle « Reine du réel » à Griseldis Réal parce que j'ai découvert la grandeur de sa poésie, ce qui a été une surprise totale. Cette poésie a été très peu publiée. C'est son fils qui m'a envoyé des dizaines de pages de poèmes scannés. De nombreux poèmes n'étaient même pas tapés, ils n'avaient pas été dactylographiés, sans parler de saisie, comme on dit de nos jours. Et donc, je les ai saisis et j'ai été moi-même saisie par leur qualité. Et j'ai donc aussi proposé aux éditions Segers un volume de ses poésies complètes et ça a été édité en même temps que la lettre Reine du réel. Je ne peux que recommander vivement la lecture des poèmes à tous les auditeurs. Personne n'a jamais parlé comme ça, ni de la prostitution, ni de la prison, ni, à mon sens, enfin à ma connaissance, de la maladie et la mortalité.
Alors la prostitution, c'est un des sujets phares de Griseldis Réal et c'est sa vie aussi, quelque part. C'est beaucoup plus sombre que ce qu'elle le dit.
Eh bien, il y a toutes sortes de choses dans la prostitution. Elle a tendance à vouloir que la prostitution soit celle de ses copines de la rue Saint-Denis ou du quartier des Paquis à Genève, c'est-à-dire une vocation embrassée de son plein gré et qui peut être, comme elle dit, une science, un art et un humanisme. On peut dire que c'est de l'idéalisation et en même temps, elle était parfaitement au courant des autres formes de prostitution qui avaient cours à son époque comme de nos jours. On peut évidemment se dire que tout ce qui traite des femmes, esclavage sexuel, etc., est déjà illégal, totalement illégal. Et ce sont des crimes qui sont, ou des délits, ou des crimes qui sont poursuivis en tant que tels. Et donc, on n'a pas besoin de légiférer spécifiquement là-dessus. Elle a une phrase très importante, Griseldis. Elle dit, et je crois que c'est une phrase qui a un peu fait bouger ma propre façon de penser à ce phénomène de la prostitution. Elle dit, certes, nous voudrions tous d'un monde sans prostituées. Nous voudrions tous aussi d'un monde sans dentiste. Or, malheureusement, les gens auront toujours mal aux dents. Et malheureusement, les hommes auront toujours mal à l'âme. Et donc, il y aura toujours besoin des prostituées. Et je crois qu'il faut raisonner comme ça, c'est le bon raisonnement. On aura toujours besoin des prostituées, même si on le regrette. On peut dire que l'alcool est une mauvaise chose. C'est évident que si on voit le nombre de morts que cause l'alcool, soit par des maladies que ça peut causer, soit par des accidents, on comprend les mobiles des femmes qui ont obtenu la prohibition dans les années 20 et 30 aux États-Unis, par exemple. Mais ensuite, on sait que ça devient encore plus dangereux parce que c'est marché noir. Et la même chose est vraie de la prostitution. Plus on l'interdit, plus ça devient dangereux, plus les femmes en souffrent et en pâtissent. Et c'est ce qui s'est passé en France, notamment avec les lois de d'abord la pénalisation du racolage et ensuite la pénalisation des clients. Donc je pense qu'il n'y a absolument aucune solution autre que la légalisation complète de cette activité. Ensuite, pour sa régularisation, il faut vraiment écouter les femmes et les hommes qui exercent le métier. Je crois que la grande lutte de Griseldis, pour ça je ne pourrais pas être plus d'accord et inciter les gens, encourager les gens à y réfléchir, c'est pour faire respecter les prostituées. Et c'est tellement la chose sur laquelle tout le monde est d'accord que c'est digne de mépris, c'est digne de vraiment une attitude de haine, de rejet, d'humour sale, etc. Tout le monde a le droit de leur cracher dessus. Ça, c'est vraiment important qu'on s'interroge sur les raisons de cela et qu'on en revienne. Elles sont des souffres-douleurs comme pouvaient l'être des lépreux à une époque ou des juifs à beaucoup d'époques ou d'autres. Voilà.
Nancy Houston, parlons un petit peu de votre œuvre. Depuis 50 ans, vous vivez en France et puis vous écrivez une fois en anglais, une fois en français, beaucoup en français, je crois. Vous aimez faire partager votre vie, votre enfance, avec vos lecteurs et vos sentiments. Bien sûr, dernièrement, il y a même un cheminement avec Nancy Houston qui est paru. C'est un besoin chez vous, ce partage?
Je ne sais pas. Je ne pense pas à ça.
Vous écrivez un point, c'est tout?
Mais j'ai écrit 75 livres et je pense que sur les 75, il y en a à peu près 5 qui parlent de mon cheminement. Donc c'est quand même une petite proportion, toute petite proportion. Je ne fais pas dans l'autofiction. Enfin, le seul livre d'autofiction, on m'a demandé de faire un livre dans la série « Je chemine avec » qui est destiné au jeune public. Et comme j'ai beaucoup, beaucoup apprécié les volumes précédents de cette collection, par exemple avec Hubert Reeves ou Angélique Kidjo, j'ai dit oui. Mais je n'ai fait qu'un seul livre d'autofiction, c'est Bad Girl. Et sinon, j'ai fait énormément de livres de fiction qui n'ont rien à voir avec l'histoire de ma vie directement.